juste un sécu, on cotise pas à rien du tout, donc on n'a pas, on cotise pas à la retraite. Donc la retraite, ce sera moi qui me la ferai. Là, j'ai plus le choix. Ouais, ce sera comme ça, mais après, c'est quelque chose qui me plaît, donc je voulais le faire quand même, et voilà.
Et en avant.
Ouais, en avant.
En fait, surtout, c'est pas avoir peur, c'est peut-être ça le conseil.
Oui, le conseil, c'est de pas abandonner, quoi. C'est comme quand, quand on est en bas d'une montagne, quoi, et qu'on a envie de la gravir, et ben, faut fermer les yeux, et puis y aller, et voilà, et pas désespérer, et puis beaucoup, surtout, se renseigner, discuter avec les gens du métier, voilà, trouver les, voir comment les autres travaillent, faut observer.
Et aimer les gens, donc peut-être aussi la clientèle. Elle se fait aussi sur la confiance, sur la comment on fait la première fois qu'on arrive sur un marché avec ses trucs et ses cheveux pas bien peignés.
Petit truc un peu rigolo. Moi, quand j'ai commencé, mon but c'est de produire du plan et j'avais pas vraiment pensé à la vente. Donc première année, j'ai fait du plan, j'ai attendu les gens chez moi et bon, c'est pas passé grand chose. Après, j'ai acheté cette petite serre à un horticulteur qui se mettait à la retraite. J'ai travaillé un petit peu avec lui pour voir comment il travaillait aussi. Donc voilà, j'allais de temps en temps l'aider. Puis voir, pendant 2-3 mois, j'ai fait ça. Il m'a appris un peu le boulot et du coup, voilà, il m'a dit « il faut aller sur les marchés, t'as pas le choix ». Et donc j'y suis allé, quoi. En temps course un peu. Et puis bon, au final, on s'habitue aux clients. Hein. C'est quand même une activité assez marrante, mais assez fatigante quand même, parce que là, il faut charger, décharger. Et quand on fait 4 marchés par semaine... Ça...
Et puis les marchés, il faut s'installer très tôt le matin, c'est à 6h en général.
J'arrive à 7h sur les marchés, ça va, oui. Après, non, sinon, il n'y a personne. Donc j'ai mes places maintenant, j'ai pas besoin d'attendre... Donc le marché c'est intéressant, quoi. Après on voit plein de gens, on voit plein de monde, mais c'est quand même du sport.
Ouais. Bon, mais super. Alors on rappelle, si vraiment vous passez par l'autoroute, c'est la 64, hein, entre Océan et Méditerranée, ouais. Entre Biarritz et Toulouse, Mauvaise Graine, ça se situe.
La Mauvaise Graine, ouais, qui se situe à Beaumont-sur-Lez, c'est à côté de Muret, au sud de Toulouse, à 20 minutes au sud de Toulouse.
Mais voilà. Tu fais pas de marché dans la grande ville, toi, tu restes sur cette campagne périurbaine.
Là, je fais maximum 20 km pour faire mes marchés. C'était mon but aussi, j'ai fait un peu de chauffeur poids lourd, mon but c'était pas faire de la route. Et voilà, et de rester surtout local, ouais, c'est ça qui est intéressant, parce que les gens ils viennent ici ensuite voir la pépinière.
Super. Voilà. Ça devient un lieu de vie, et ça devient une vie tout ça.
Ça devient une vie, oui, maintenant 6 ans, et ouais, ça fait son petit bonhomme, ouais.
Ah bah super, longue vie à la Mauvaise Graine. Merci Olivier, merci Malvina, au revoir.
Merci à toi et longue vie à l'ours et la carotte. Ouais.
Merci beaucoup et une bonne continuation à vous aussi.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
Palestine, pays pour certains, non reconnu pour d'autres, sous le feu des projecteurs mais surtout sous celui des balles et des explosions, terre de conflits mais également terre historiquement sainte, racine d'un peuple et d'une culture. Mahmoud vous embarque pour un récit, celui de sa terre natale et d'un parcours de vie. Enfance marquée par cette atmosphère pesante, mais une soif irrémédiable de connaissance et de liberté, il choisit alors la France comme pays d'adoption. Malgré les 4348 km qui le séparent de son histoire, Mahmoud demeure profondément lié à son pays, se désignant lui-même comme le fruit d'une rencontre des deux cultures.
Il y a le désert de Negev au sud, mais de Gaza au nord, c'est une terre verte avec agricole, avec des forêts, où Gaza était une terre qui très fertile et qui les palmiers de Gaza, c'est magnifique à voir. Il y a une petite ville au milieu de la bande de Gaza qui s'appelle Der al-Balah, c'est-à-dire le couvent des palmiers. Ça va des palmiers de l'est de cette ville jusqu'aux plages de la Méditerranée. Mahmoud, j'ai 42 ans. J'ai fait jusqu'à l'âge de mes 23 ans à Gaza. Je suis parti en 2005. En Palestine, tout nous apprend l'histoire. Moi, j'ai jamais eu mon père qui m'a dit « on est de Jaffa » ou « on est des réfugiés ». Mais je l'ai su, et quand je me présente toujours, je me présente comme de Gaza, réfugié de Jaffa. J'ai jamais vu Jaffa, j'ai jamais eu des cours d'histoire sur Jaffa, mais je connais Jaffa. Je sais qu'on est de Jaffa, ma fille saura qu'elle est de Jaffa. C'est, en fait, c'est la souffrance qui nous oblige à comprendre et savoir. Mais il n'y a pas des choses institutionnelles, les choses s'en transmettent tout naturellement. Les premiers souvenirs sont propres à la première intifada, en fait. Quand elle a commencé, j'avais 6 ans, en 87. C'est le soldat israélien, l'Égypte israélienne qui rentre en toute vitesse dans le quartier. Les jeunes qui jettent des pierres et qui se font tuer ou blesser. Et puis j'ai été à 8 ans, j'ai eu le droit à une troupe de soldats israéliens qui sont venus à la maison pour m'arrêter. J'avais 8 ou 9 ans, pas plus, c'est sûr certain. C'est parce que je jetais des pierres, oui, je jetais des pierres. C'était le seul moyen pour nous défendre face à toutes les injustices. La première intifada, c'est surtout une situation de tension permanente. C'est mon papa qui a été arrêté durant, du coup, la première intifada, c'est de 87 jusqu'à 93. Et il a arrêté au moins 4 à 4 reprises. Et il y a eu surtout des arrestations administratives, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. Et vous pouvez rester très longtemps, comme on peut vous relâcher au bout de 3, 4 mois ou 6 mois. J'ai eu mon frère qui a été arrêté, j'ai eu un oncle qui a été arrêté, enfin des oncles qui ont été arrêtés. Ça, c'est, je parle que de la famille proche. Si je parle des amis, j'ai perdu un ami. J'ai eu des amis qui ont été blessés également pendant la première intifada, des blessures assez graves. Moi, j'ai eu une blessure au pied qui n'était pas vraiment grave. Mais j'ai eu des amis qui auraient pu mourir à cause des blessures. Et d'autres qui ont péri, oui, face à des soldats bien armés qui tirent sur des enfants sans aucun état d'âme. À l'époque, il y avait des colonies israéliennes à l'intérieur de Gaza. Mais ces colonies, il y a des Israéliens qui y vivent, mais qui sont entourés par des frontières où il y a des soldats, qui, dès qu'on s'approche à 300 mètres, on est mort. Même la situation en Cisjordanie aujourd'hui, il n'y a pas de mélange. À Jérusalem, parfois à pied, ils sont partagés certains chemins. Mais il n'y a pas, ce n'est pas vrai, il n'y a pas une vie israélienne-palestinienne. Or, les Palestiniens de 48 qui sont en Israël, tout ce que Israël fait et produit aujourd'hui, c'est pour bien ancrer cette séparation et même pour exclure les Palestiniens des zones géographiques où les Israéliens souhaitent s'installer. Et le vrai souhait des Israéliens, c'est que les Palestiniens dégagent complètement, partent de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, parce que l'idée, c'est d'avoir tout ce territoire pour les Israéliens, et surtout la Cisjordanie, qu'ils appellent toujours Juda et Samarie, et non pas la Cisjordanie. Le seul contact avec les Israéliens, c'était le contact avec l'armée israélienne, qui, du coup, c'est un contact des soldats qui attaquent et des civils qui se défendent. Sous une occupation, on s'adapte. Et heureusement qu'on a cette capacité. Alors c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'une guerre comme celle d'aujourd'hui, d'une agression plutôt comme celle d'aujourd'hui, des crimes et génocides pour moi, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a même pas le temps de respirer, qu'on a les bombes, qu'on a les tirs qui interviennent à tout moment. On est complètement préoccupé par comment on va trouver de l'eau, comment on va trouver à manger. Ce n'était pas vraiment la situation pendant la première intifada. La première intifada, il y avait une vraie répression, mais qui n'allait pas jusqu'à des bombardements aveugles, jusqu'à des chars qui lancent ces bombardements dans tous les sens. Et du coup, oui, il y avait une vie, il y avait une vie familiale avec des moments conviviaux. Mais bien sûr, quand on apprenait que le voisin a été blessé ou il y a eu un mort, et bien sûr, ça c'est tragique et ça c'est de l'impact, son impact sur la vie de tout le monde. Mais on vivait globalement bien. Bien dans le sens, c'est-à-dire on arrivait à surmonter les choses, mais les choses, plus les années avançaient, plus les choses se dégradaient. En fait, les choses ne sont pas apaisées. Il y a eu la première intifada, puis il y a eu les accords d'Oslo, où il y a eu une période de paix, qui était une période de paix qui était sur la... Si on parle de la tranquillité des gens, de la tranquillité économique, oui, c'était vrai à Gaza, en tout cas. Ça, c'était vrai, mais c'était un vrai échec politique, car Israël n'a jamais respecté ce qui était convenu. Et la colonisation avait continué, et l'installation des colons, expropriation des ressources palestiniennes avait continué. Que ça soit l'eau, que ça soit les terres. Et du coup, c'était un vrai échec. C'est ça qui a amené à la deuxième intifada en 2000. La deuxième intifada, c'était beaucoup plus dur que la première. On dit que le blocus à Gaza a commencé en 2006, mais moi, toujours j'ai connu Gaza comme sous blocus. C'est-à-dire, c'est toujours les Israéliens qui contrôlent toutes les entrées, les sorties. Et quand je suis sorti en 2005 de Gaza, ce n'était... il m'a fallu plusieurs jours pour pouvoir partir. J'avais mon visa. Ça faisait plus d'un mois que je l'avais, mais le passage de Rafah, le seul passage possible, était fermé. Et j'avais une copine à la fac qui, son oncle, travaillait sur le passage de Rafah. Et je lui dis, dès qu'elle le sait, qu'elle m'appelle. Et il y avait un copain qui partait aussi avec moi pour faire la même chose. Et du coup, à 1h du matin, elle m'appelle. J'ai mis dans mon sac ce que je pouvais mettre. On arrive au passage, il y avait déjà deux mondes. Parce que tous ceux qui ne pouvaient pas partir, les malades, tout le monde venait. Et si vous voulez, quand vous arrivez sur comme un terrain vague, avec des guichets. Et vous ne savez pas quel guichet va ouvrir, parce qu'en fait, pour que tout le monde ne s'amasse pas sur le même guichet, on change à chaque fois le guichet qui peut ouvrir. À 11h, quand ils m'ont réveillé, ils m'ont dit « ça ouvre ». Du coup, on court au guichet. Il faut d'abord donner le passeport aux Palestiniens, à la police palestinienne, qui va le communiquer à la police égyptienne, qui va donner son accord. À l'époque, les Israéliens venaient de sortir. Mais les Égyptiens, ils ne font que selon les ordres des Israéliens. Tout ça pour vous dire que le blocus, ça n'a pas vraiment commencé en 2006. Et du coup, j'ai demandé aux copains de me jeter sur les gens. J'ai vraiment me jeté sur les gens. Du coup, j'ai été déchiré, la chemise, parce que les gens, j'étais sur la tête des gens. Les gens se battaient et me tapaient. J'ai donné les passeports. Après, il y a eu le bus qui est arrivé, qui nous a appelés. Et vous montez dans le bus et on part après côté égyptien. On arrive en Égypte, on est traité comme des potentiels terroristes, entre guillemets. C'est-à-dire, on est passé en bus avec la police égyptienne qui garde le bus en transit jusqu'à l'aéroport du Caire. On est resté à l'aéroport du Caire dans une pièce presque 100 mètres carrés. On était peut-être 150. On a passé la journée, le temps de prendre le billet pour la France. Et après, on est pareil, il y a un soldat égyptien qui va avec nous jusqu'à l'endroit sécurisé où on part vers la France. L'Égypte, si on a le visa pour l'Égypte, on n'est pas traité de la même manière. Mais quand on fait transit, ils traitent les jeunes à l'époque entre 18 et 40, je crois, comme des potentiels, enfin pas des terroristes, mais qu'on peut perturber.
Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.
J'avais fait un parcours littéraire à Gaza. J'avais fait un bac plus 4 à l'université Al-Aqsa, à la ville de Gaza. Et spécialité FLE, français langue étrangère. Et puis j'ai eu l'opportunité de venir en France dans un programme organisé par le consulat français où j'avais un contrat de travail au lycée de Mondorville, Codo, pour 7 mois. Du coup, c'est pour enseigner l'arabe et en même temps apprendre le français, en fait. Là, depuis 2017, je suis directeur adjoint, puis directeur d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. La France, c'est un pays où j'avais envie de visiter depuis petit. Il y avait quelques pays comme la Syrie, l'Algérie et la France. Quand je suis parti de Gaza, je ne savais pas très bien comment... est-ce que je vais rester ou pas rester. Arrivant en France, j'ai beaucoup aimé le pays, la liberté, entre guillemets, je le dis, qui existe en France, parce qu'il y a une liberté personnelle, une liberté de pensée conditionnelle. J'ai aimé beaucoup ce pays. En fait, quand on a vécu que dans un climat de répression, on s'habitue. C'est-à-dire, moi, je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs avant de partir. Mais quand on connaît une vraie liberté de circulation, une vraie liberté de vivre, en fait. Parce que nous, si je donne l'exemple de la mer... Pour aller à la mer à Gaza alors qu'on était à 2 km, c'était pas possible. Avant que les colonisations israéliennes partent, c'était pas possible à Khan Younes, ma ville. C'était fermé. Alors qu'on était à 2 km, à pied, c'est 20 minutes. La vérité, la première fois que je me pose la question sur le fait de rester en France ou pas, c'est avec ce qui se passe en Palestine maintenant. Alors qu'il y a eu déjà plusieurs agression israélienne avant 2014-2009 où ça m'a pas choqué énormément le traitement du sujet en France, mais c'est vrai que là avec la position officielle mais aussi le traitement médiatique du sujet et surtout la France que on prétend le pays des libertés, de droits de l'homme, alors qu'on a un génocide qui se passe en Palestine, on a toujours les grands médias qui traitent le sujet comme s'il venait de commencer le 7 octobre et comme si ce qui se passe à Gaza aujourd'hui c'est que des nombres et qu'on jette toujours la faute au Hamas ou aux Palestiniens et que Macron, et il a fallu plusieurs semaines pour qu'il dise qu'il faut arrêter le cessez-le-feu. Et du coup, oui, et là, c'est vrai. Mais en vrai, moi, j'aime la France et j'aime la culture française et ma vie, elle est complètement plus française que palestinienne, en fait. C'est même pas une histoire de temps, c'est une histoire de vécu, de croyance aussi, c'est-à-dire mes pensées, ma philosophie de vie s'approche plus de la façon, surtout sur les libertés personnelles, de la vision qu'on peut avoir en France que en Palestine. Mais c'est vrai, quand je vois sur des questions de valeurs que ça se dégrade en France, parce que les valeurs, c'est encore plus important. Et je trouve qu'il y a plus de valeurs aujourd'hui avec la résistance des Palestiniens à Gaza que ce qu'on essaie de faire véhiculer la version officielle, parce qu'elle n'a pas du tout de valeur humaine. C'est-à-dire, on pense surtout aux intérêts avant de penser aux vies de gens. À Gaza, les gens sont en train résistent pour avoir leurs droits fondamentaux, et mais ils résistent avec leur chair. Aujourd'hui, il n'y a pas que le conflit palestinien, mais je pense que le conflit le plus injuste dans le monde aujourd'hui, et peut-être à travers des siècles, c'est le conflit palestinien. C'est ce qui se passe pour les Palestiniens. Parce que depuis 1948, on ne fait que voler la terre, l'histoire. On dit qu'il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas des Palestiniens. On dit que c'est un désert. On dit qu'ils sont partis tout seuls. On dit non, il n'y a pas de gens qui meurent. Même aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas. Non. Alors qu'il y a 30 000 entre morts et disparus. Et les blessés, c'est 60 000. Et on est toujours en train de dire oui, mais c'est peut-être pas la faute des Israéliens. Il y a des hôpitaux qui sont bombardés et on ne dit rien. Des écoles qui sont bombardées, on ne dit rien. Mais du coup, comment ça se fait? Dans les Israéliens, il y a des gens qui croient qu'il faut tuer les Palestiniens, que c'est des animaux. C'est ce qu'il a dit le ministre. C'est des animaux humains. Ça veut dire quoi? Un moment quand même, il faut responsabiliser. Si je dois parler d'un souvenir précis, oui, c'est la mer. C'est la mer de Gaza qui est très belle, avec des plages sable fin, surtout à Khan Younes. J'ai le souvenir de l'enfance, de quand on jouait avec mes amis dans la rue, le camp de réfugiés qui est plein de vie. Un camp de réfugiés, c'est un camp de misère, c'est vrai, mais c'est un camp où il y a une vraie solidarité entre les familles. Les enfants des voisins, les attentions, le père d'une famille voisine, c'est aussi le père des enfants des voisins. J'ai des beaux souvenirs aussi de la période du calme qui était entre 1993 et 2000, même si c'était une période d'échec politique, mais c'était une période où il y a eu une certaine tranquillité. Je suis reparti en 2013 dans un café et j'avais laissé un bakchich. J'avais laissé un pourboire. Il m'a dit, vous prenez la monnaie que vous avez laissée. Moi, j'avais oublié. À Gaza, il n'y a pas le pourboire. Tu me dois quelque chose, tu me le donnes, basta. Tu me dois mon travail, tout court. Il y a des escrocs, il y a des voleurs, c'est comme partout. Mais à Gaza, il y a toujours un vrai attachement aux valeurs. Je trouve qu'il y a peut-être énormément, vraiment énormément, des gens gentils avec des cœurs sur la main.
Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you feel the beat? Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part of that beat in my heart? Whatever I've got, I'm in.